RFI, grand reportage, Patrick Adam.
Bonjour. C'est un animal qui, après avoir failli disparaître, devient un outil de réconciliation et de développement. En deuxième partie d'émission, nous parcourrons les grandes plaines du Canada à la rencontre des bisons. À entendre, le reportage de Léopold Picot que nous appellerons en ligne de Calgary. C'est un mal étrange dont les chercheurs n'ont pas encore déterminé la cause. Le syndrome du hochement de tête frappe les enfants à partir de l'âge de 3 ans. Sans prise en charge médicale, les symptômes s'aggravent au fil des mois. Crise d'épilepsie, retard de croissance important, handicap mental. Et la vie de ces enfants et adolescents touchés est d'autant plus difficile que souvent ils sont mis à l'écart de la société. La Tanzanie, le Cameroun, la RDC ou encore la République centrafricaine sont touchés. Mais c'est au Soudan du Sud que les cas sont les plus nombreux. On en décompte pas moins de 6000 dans la région d'Équatoria occidentale.
C'est arrivé d'un coup. Mon fils n'avait jamais eu de paludisme ni aucune autre fièvre auparavant. Un soir, il était sur le point de manger. Il a commencé à hocher de la tête. Cela a duré des mois comme ça, avec ce mouvement de la tête au moment des repas. Puis, au bout d'environ un an, il a commencé à avoir de graves convulsions et il est décédé.
Au Soudan du Sud, les ravages du mystérieux syndrome du hochement de tête. Grand reportage, Florence Mietto.
Depuis la route, il faut marcher une dizaine de minutes à travers les hautes herbes pour atteindre la rivière qui zigzague à la lisière de Mvolo. On débouche sur un décor somptueux d'immenses rochers arrondis au pied desquels bouillonne la rivière. Dans l'eau jusqu'à la taille, le corps tendu pour lutter contre le courant, des pêcheurs tiennent leur filet à bout de bras. Assis à même la roche, chauffés au soleil, surplombant les rapides, deux hommes attirent le regard. Le bas de leurs pantalons retroussé au-dessus du mollet, ils attendent que des mouches noires se posent pour les piquer. Ils les capturent et les enferment dans des tubes. Cet insecte minuscule est responsable de l'onchocercose ou cécité des rivières, une maladie parasitaire endémique dans la région. Mais les chercheurs pensent qu'elle pourrait également être à l'origine du syndrome du hochement de tête.
C'est une maladie courante dans notre communauté. Même chez moi, dans ma famille, j'en ai été témoin. On n'en connaît pas vraiment la cause. Nous participons à cette recherche sur les mouches noires pour savoir si elles sont à l'origine de cette maladie. C'est pour cela que nous avons été appelés par le gouvernement, pour faire en sorte que cette recherche réussisse et mettre un terme aux souffrances de notre peuple.
Edouard Khamis Ali, 35 ans, est l'un des bénévoles mobilisés depuis octobre 2023 pour participer à ce projet de recherche sur les mouches noires mené par l'ONG Amref Health Africa et le ministère de la Santé sud-soudanais. Comme la plupart des habitants de Mvolo, le jeune homme est personnellement touché par le syndrome du hochement de tête.
Mon petit frère a cette maladie, ça me fait de la peine. Au moment de manger, c'est à partir de là que le hochement de tête commence. Ensuite, il va tomber et les gens doivent réagir pour éviter qu'il ne se blesse. Il lui est difficile de manger car la nourriture déclenche les crises. La famille doit constamment s'occuper de lui, le surveiller, pour qu'il n'aille pas dans l'eau ni tombe dans le feu. Voilà, cette maladie est terrible.
Chaque véhicule qui traverse le vieux pont de Mvolo fait s'entrechoquer bruyamment les plaques en métal qui le recouvrent. Depuis la fin de la Seconde Guerre civile soudanaise en 2005 et surtout depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, il y a un peu plus de trafic sur cette route. Les conflits entre les communautés de cultivateurs de Mvolo et les éleveurs armés de l'état voisin de Lakes se sont apaisés eux aussi. Et des camions viennent sans trop de crainte ravitailler de temps en temps le marché du village. C'est ainsi que Mvolo s'est un brin développé. Julius Sébit Emmanuel, 48 ans, a remarqué que ce semblant de développement a fait baisser le nombre de mouches noires ici à Mvolo. Lui aussi bénévole du projet de recherche, il se dévoue pour les capturer et en a tout de même mis en tube 200 en quelques heures. C'est dans les herbes au bord des cours d'eau à courant rapide comme celui-ci qu'elles se reproduisent. Cet insecte est loin d'avoir livré tous ses secrets. Cette mouche noire, quel est son nom en langue locale?
Nous l'appelons matekilini dans notre langue. Les gens d'ici, quand ils sont occupés à pêcher, ils les chassent simplement, comme n'importe quelle mouche. Le syndrome du hochement de tête, c'est très récemment que nous avons commencé à en savoir plus, grâce à ce projet de recherche d'AMREF. Jusqu'alors, nous connaissions cette maladie uniquement à travers le prisme de nos croyances traditionnelles. Ces croyances disent que si quelqu'un tue un membre de votre parentèle, votre famille élargie, et que vous vous retrouvez à partager un repas avec celui qui a commis ce meurtre, la conséquence sera la maladie du hochement de tête. Mais cette année, on nous a appris, même si nous n'avons pas encore de preuves, que la maladie du hochement de tête était sans doute liée aux morsures de cette mouche noire.
Sur l'ensemble du comté de Mvolo, les autorités estiment qu'il y aurait 3000 cas. Ce projet de recherche suscite l'espoir de trouver un traitement et peut-être d'abord de répondre aux nombreuses questions sans réponse. Car jusqu'à présent, le manque d'informations sur le mode de transmission de la maladie et l'absence de soins spécialisés ont décuplé les craintes des habitants.
Je m'appelle Kenneth Roga, j'habite ici. Je n'ai que cette ferme pour nourrir mes enfants. C'est pour ça que je reste ici, malgré les difficultés. On n'a pas d'eau potable et il y a beaucoup de mouches noires. Les gens en ont peur et refusent de venir vivre ici pour cultiver, mais moi je n'ai pas le choix. Après la récolte, je retourne vivre en ville le temps de la saison sèche et dès qu'il pleut, je reviens ici pour cultiver.
La ferme de Kenneth Roga, 45 ans, se trouve près de la rivière de Mvolo. L'homme sec, aux habits usés, a observé la multiplication des cas de syndrome du hochement de tête ces 15 dernières années. Son fils Martin, né en 2003, a développé la maladie dès 2006. Le jeune homme porte les marques de la maladie. Tantôt distrait ou absent, il ne parle pas. Son père explique qu'il ne peut même pas aider aux travaux des champs. Il n'écoute pas les instructions, dit-il.
Nous, ce que nous acceptons sans problème, c'est qu'une maladie touche une personne de 80 ans et conduise à la mort de cette personne. Dans ce cas-là, on accepte, car on se dit que son heure était venue. Mais là, un jeune enfant qui attrape ce genre de maladie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Ici, à Mvolo, vous avez des parents qui vivent sans enfants, un père et une mère dont tous les enfants sont morts à cause de cette terrible maladie.
Les voisins se sont agglutinés ici en bordure du champ où poussent de hauts pieds de sorgho. Tous écoutent les paroles de Kenneth Roga, chef de cette communauté de cultivateurs qui vivent dans un grand dénuement. Le patriarche en est convaincu. La prolifération des cas de syndrome du hochement de tête est la conséquence des conflits communautaires, des meurtres entre Sud-Soudanais et de l'effritement des traditions. Ceux qui ont du sang sur les mains ne restent plus à l'écart de la société le temps que les anciens effectuent les rituels requis, dit-il. Ils se mélangent à leur famille et à leur communauté comme si de rien n'était. Voilà pour Kenneth Roga la cause de la propagation de cette maladie. Quand on lui dit qu'il y a sans doute une explication purement scientifique, Kenneth Roga insiste.
Les gens ont différentes manières de considérer les maladies. Vous, vous appelez cela simplement maladie, mais pour nous, c'est le résultat de ce dont j'ai parlé. C'est comme une punition, parce que cette maladie est très grave et elle est différente des autres. Quand elle attrape un enfant, elle ne s'en va jamais et elle va le torturer jusqu'au point où l'enfant va uriner sur lui-même. Vous voyez un enfant qui est sale, qui n'a pas l'air bien. Même s'il devient adulte, sa santé et son allure ne vont pas. C'est une maladie terrible. C'est comme un châtiment pour les parents. Ils sont torturés car ils se sont associés à un meurtrier, même sans le savoir.
Autres pratiques ancestrales qu'il faudrait selon lui respecter, que ni les mamans de très jeunes enfants, ni les enfants atteints de la maladie ne mangent des aliments tels que la viande de chèvre, le miel, le poulet, le maïs ou encore l'anguille.
Nos ancêtres ont eux aussi été touchés et ils en ont tiré des leçons. Ils ont donc mis ces règles en place. Quand tu as un enfant qui est comme ça, ne lui donne pas ce type de nourriture. Parce que ces aliments ont un effet sur la santé de ceux qui ont la maladie.
Pourtant, Kenneth Roga souhaiterait avant tout que des médicaments anti-épileptiques soient disponibles à Mvolo pour ceux qui, comme lui, craignent la violence des crises d'épilepsie. Son fils n'a plus de cachet depuis plus d'un mois car l'ONG qui lui en fournissait est à court de stock. Le père de famille s'inquiète de savoir si son fils va à nouveau avoir des convulsions encore sous le choc suite à la mort d'un jeune de Mvolo lors d'une crise d'épilepsie nocturne, une semaine avant notre rencontre. Dès les premières heures de la matinée, l'unique rue qui traverse Mvolo s'anime. Les petits magasins et les cafés ouvrent leurs portes. C'est aussi l'heure où quelques enfants atteints du syndrome du hochement de tête sortent de chez eux. Ils viennent errer de cette rue centrale jusque dans les allées du marché, leurs vêtements déchirés, des blessures visibles sur leurs membres et sur leur visage, stigmates de chute passée lors de crises d'épilepsie. Si tous les parents ne négligent pas leurs enfants atteints par la maladie, tous vivent dans le désarroi le plus total face au manque d'accès au traitement et face à toutes les questions laissées sans réponse. Marie James tient le petit Boui-Boui situé au croisement de la rue principale de Mvolo et de celle qui descend vers la rivière. Mariée à un soldat dont le salaire ne suffit pas, c'est grâce à ce restaurant qu'elle subvient aux besoins de ses enfants.
J'ai eu 5 enfants. 3 sont morts et 2 sont toujours en vie. Mon premier fils est mort du syndrome du hochement de tête. Et les 2 autres, c'était à cause d'autres maladies. Il est mort quand il avait 3 ans. Je ne me souviens plus trop de l'année. C'était après la fin de la guerre, vers 2006. C'était ici, à Mvolo. C'est arrivé d'un coup. Mon fils n'avait jamais eu de paludisme ni aucune autre fièvre auparavant. Un soir, il était sur le point de manger. Il a commencé à hocher de la tête. Cela a duré des mois comme ça, avec ce mouvement de la tête au moment des repas. Puis, au bout d'environ 1 an, il a commencé à avoir de graves convulsions et il est décédé. Il n'y avait pas de clinique. Nous l'avons emmené chez le médecin herboriste. Il a mis quelques herbes sur le front du garçon, mais ça n'a eu aucun effet.
Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une amélioration depuis cette époque pour les familles concernées ?
Il n'y a aucune amélioration. Je dis ça car chez nous, il y a des enfants qui vivent avec cette maladie et d'autres qui continuent de l'attraper. Ils prennent des médicaments, mais il n'y a pas d'amélioration. Nous avons peur que les enfants en bonne santé contractent la maladie. Et donc, nous les séparons de ceux qui l'ont. Ils mangent et dorment séparément.
Marie James nous a amenés jusque chez elle. C'est l'un de ces foyers typiques de la région. La famille élargie vit dans des toucoules, des habitations en terre au toit de chaume, réparties sur une vaste surface ombragée, au sol bien dégagé de toute végétation. Tout autour, des plantations de sorgho, de maïs, des bananiers et la forêt sur laquelle le soir commence à tomber, inondant la scène d'une forte lumière orangée. Toute la famille ainsi que des voisins, intrigués par notre visite, se sont rassemblés au centre de la maison, où trônent des manguiers gigantesques. Rieuses, les filles préparent le repas du soir. C'est Myriaman Gong Kojo, 75 ans, la belle-mère de Marie James, qui prend la parole.
Ce dont je me souviens, c'est que cette maladie est apparue en 1991. Tout a commencé avec l'enfant de mon fils, James, qui a eu 7 enfants avec sa première épouse. Ils sont tous tombés malades du hochement de tête et 5 sont morts. Ensuite, c'est le premier enfant de sa seconde femme, Mary, qui est lui aussi décédé de la maladie du hochement de tête. Et la maladie a encore tué 2 enfants d'un autre de mes fils. C'est ainsi que ça s'est passé. Cette maladie a tué 8 de mes petits-enfants.
James Aburu Kujo, qui est le fils de Myriama et l'époux de Marie, se souvient de ces années sombres au cœur de la guerre civile soudanaise à partir des années 1990, lorsqu'il a vu impuissants ses enfants tomber malades les uns après les autres. Ceux qui sont encore en vie sont une lourde responsabilité pour la famille.
Moi, j'ai 6 enfants qui en sont morts et actuellement à la maison, avec mes frères, nous avons 8 enfants qui ont la maladie et ils vivent ici avec nous à la maison. Nous les surveillons constamment, nous les empêchons d'aller à la rivière parce que c'est très dangereux, surtout s'ils tombent dans l'eau au moment d'une crise. Ils risquent de se noyer. Ils n'ont pas toute leur tête, donc on ne les laisse pas aller n'importe où. Et par ailleurs, là où ils dorment, c'est un endroit confortable, mais séparé des autres enfants. Et c'est nous qui cultivons pour les nourrir, car eux ne peuvent pas travailler. Ce que j'espère, c'est que le gouvernement ou les ONG créent un lieu dédié pour ces personnes où elles pourront être soignées. Parce que ces enfants-là, qui ont grandi, sont maintenant handicapés. Il n'y a plus trop d'espoir pour eux. Mais pour les plus jeunes, je ne veux pas qu'ils contractent la même maladie et souffrent autant. Il faudrait au moins qu'il y ait une clinique spécialisée pour que des soins soient prodigués ici à Mvolo.
La nuit tombe et les enfants sifflent dans leurs mains comme dans une flûte, célébrant la nouvelle lune qui apparaît, signe de changement et d'espoir. Nous allons quitter Mvolo, emprunter la route en latérite qui trace à travers la forêt tropicale pour rejoindre Mundri, petite ville située à 100 km plus au sud, où se trouve une clinique spécialisée. Mundri, c'est une ville un peu plus développée que Mvolo, mais tout aussi marquée par les guerres civiles et par le syndrome du hochement de tête. Les mêmes croyances traditionnelles sur l'origine de la maladie circulent ici et les pratiques consistant à isoler les enfants et adolescents touchés sont également courantes. Sauf qu'une clinique spécialisée dans le traitement de l'épilepsie et du syndrome du hochement de tête existe ici. Ouverte en 2019, la clinique de la Nodding Syndrome Alliance, un consortium d'ONG, suit plus de 1500 patients. Ils viennent se ravitailler tous les mois en pilules anti-épileptiques. Joseph Yoto, infirmier.
Quand le projet a commencé, un grand nombre de personnes sont venues pour les médicaments. Nous avons enregistré environ 25 décès depuis, mais la majorité vivent maintenant sans convulsions. Certains parviennent même à retourner à l'école, à cultiver. Ceux qui ne pouvaient pas laver leurs vêtements, maintenant, ils en sont capables.
En parallèle des traitements fournis gratuitement par la clinique, la Nodding Syndrome Alliance diffuse des informations sur le syndrome du hochement de tête et sur comment favoriser l'inclusion des enfants atteints. Lukowe Christine Tina, originaire d'Ouganda, fait partie des enseignants de l'école primaire Mundri Adventist qui ont reçu une formation.
L'année dernière, quand je suis arrivée à Mundri, quand je voyais ces enfants tomber ou avoir des convulsions, moi aussi je m'éloignais d'eux. Parce que j'avais peur qu'en les touchant, je puisse attraper cette maladie du hochement de tête. Pour dire la vérité, nous ne nous occupions pas d'eux. Mais depuis la formation, nous savons comment réagir.
C'est l'histoire de Nejend Bauda, une élève de 19 ans atteinte de la maladie, dont elle est la plus fière. Suite à une crise d'épilepsie en pleine classe, elle avait presque décidé d'abandonner l'école.
Parce qu'elle était découragée. Elle est rentrée chez elle et elle a passé 2 semaines sans venir à l'école. Quand je suis allée la voir, elle m'a dit « Madame, je ne veux pas revenir à l'école parce que les élèves disent que je vais leur transmettre la maladie du hochement de tête, donc ça ne m'intéresse plus de venir passer les examens. » J'ai dû la raisonner. Je lui ai dit « Bauda, reviens à l'école. Personne ne va dire du mal de toi. Personne ne va te fuir. » Les autres la mettaient à l'écart. C'est pour ça qu'elle avait décidé de rester à la maison. Puis, après lui avoir parlé, elle est revenue et nous avons dû faire l'effort de parler aux élèves de 3e pour leur faire prendre conscience qu'ils n'ont pas à l'éviter, car cette maladie ne peut pas s'attraper simplement en interagissant avec une personne qui en est atteinte. Il fallait qu'ils comprennent et Bauda a réussi à passer ses examens. Elle va bien maintenant, elle est libérée et elle prend ses médicaments.
Nejen Bauda vient de passer l'équivalent du brevet des collèges avec succès. Elle est là toute sourire, serrée contre sa professeure.
Je veux devenir médecin parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de cette maladie du hochement de tête. Je veux les aider pour qu'ils puissent retourner à l'école. Même les personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler. Et les aveugles, je veux les aider pour qu'ils se sentent bien dans leur corps et dans leur tête.
Peut-être Nejen Bauda rejoindra-t-elle un jour les chercheurs, les travailleurs sociaux et les humanitaires qui luttent contre le syndrome du hochement de tête sans même avoir percé le mystère de sa cause.
Au Soudan du Sud, les ravages du mystérieux syndrome du hochement de tête. Florence Mieto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de RFI à Djouba, c'est donc vous qui avez tourner ce grand reportage. Pour cela, vous vous êtes rendu dans deux petites localités, Mvolo et Mundri. Ce sont des villes où on peut accéder facilement depuis Djouba.
Alors, ce sont des villages reculés et difficiles d'accès. Il n'y a qu'un seul vol par semaine pour aller à Mvolo, qui se trouve à environ 300 km de Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Sinon, c'est par la route, mais ça prend plusieurs jours et ça peut être dangereux.
Alors, les populations que vous avez rencontrées sur place, face à ce mal mystérieux, quel est leur sentiment ? Est-ce que vous avez rencontré tout simplement de la détresse ?
Oui, les gens vivent dans la crainte, car ils pensent que la maladie est contagieuse, d'une part, et aussi parce qu'ils ne savent pas quelle en est la cause. Ils tentent des traitements par les herbes, qui ne fonctionnent pas, car les traitements anti-épileptiques ne sont pas accessibles à tous, surtout dans les villages les plus reculés. Cette maladie, en fait, elle s'ajoute à toutes les difficultés de la vie de ces communautés vulnérables où la mortalité infantile est très élevée. Et donc, en fait, le syndrome du hochement de tête vient s'ajouter aux autres causes de mortalité.
Vous parlez de mortalité infantile. De fait, cette maladie du hochement de tête, elle ne touche que les enfants.
Oui, le fait que la maladie n'apparaisse que chez les enfants rajoute au mystère. J'en ai parlé avec le chercheur Steven Jada, qui est l'un des spécialistes de la maladie. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est que le cerveau des enfants étant en cours de développement, il est plus fragile en quelque sorte, et donc plus vulnérable face à ce qui provoque le syndrome du hochement de tête, que ce soit un parasite ou un autre organisme qui n'est pas encore identifié.
Et les médecins, les chercheurs, est-ce que eux ont une explication scientifique à cette maladie, au-delà de la question des traitements ?
Ben, pas vraiment, même s'ils dirigent leurs efforts sur les mouches noires qui transmettent le parasite responsable de l'oncocercose. Car les zones touchées par le syndrome du hochement de tête sont toutes très affectées aussi par cette cécité des rivières. Donc, même sans en avoir la preuve formelle, ils pensent qu'il y a un lien et que le parasite de l'oncocercose pourrait aussi provoquer le syndrome du hochement de tête. Ce qui est avéré, et ça m'a été raconté par des habitants, notamment à Mvolo, c'est que les zones près des rivières ont beaucoup plus de cas que les villages éloignés des cours d'eau où se reproduisent les mouches noires.
On se rend compte, Florence, dans votre reportage, hein, que les habitants ont bien sûr envie de connaître la cause exacte de la maladie, de même que la mise à disposition d'un traitement médical. Et en même temps, ils expliquent l'apparition de ces symptômes du hochement de tête par des croyances culturelles.
Oui, c'est vrai que malgré les efforts des ONG et des chercheurs pour essayer d'informer la population, notamment sur le fait que le syndrome du hochement de tête n'est pas contagieux, les croyances restent très fortes. Et j'ai longuement discuté avec l'évêque de Mundri, Bismarck Mandé Avokaya, et lui-même ne cache pas ses interrogations, vu qu'il a observé la multiplication des cas dans les familles, comme si la maladie se transmettait d'un enfant à un autre. Il aimerait avoir la preuve par A plus B, en fait, que cette maladie n'est pas contagieuse. Et avec cette certitude en main, il serait prêt à prêcher et à passer l'information aux milliers de membres du diocèse. Mais pour l'instant, il préfère rester prudent.
Et pourtant, Florence, les scientifiques, les médecins sont formels. La maladie n'est pas contagieuse.
Non, elle ne l'est pas. Et c'est l'idée reçue qui fait le plus de dégâts, car elle conduit à la ségrégation des enfants malades. Et en fait, cette mise à l'écart fait empirer leur état, puisque plus l'enfant est stressé ou déprimé, plus les crises d'épilepsie sont fréquentes. C'est ce que m'ont expliqué des travailleurs sociaux qui interviennent auprès des familles. Ils accompagnent les enfants malades pour qu'ils prennent leur traitement anti-épileptique correctement et puissent revenir à l'école.
Merci Florence Mietto. Je rappelle le titre de votre grand reportage, Les ravages du mystérieux syndrome du hochement de tête, l'exemple du Soudan du Sud.
Merci Patrick.
Le supplément au grand reportage, deuxième partie, on se retrouve dans une vingtaine de minutes.
Certains aînés avec lesquels j'ai échangé disent que si le bison avait disparu, notre peuple aurait disparu aussi. Mais les buffalos ont persévéré, bien qu'ils aient failli s'éteindre. Les gens aussi, à cause de l'épidémie de variole. Mais en fin de compte, les bisons ont persisté, tout comme les gens. Et c'est grâce à la croyance dans les prières et dans la force du buffalo. Comme je l'ai dit, le buffalo est notre bâton de vie. Le buffalo nous représente tous.
The buffalo represents all of us.
Les bisons américains, aussi appelés buffalo, ont failli disparaître à la fin du 19e siècle. Et avec eux, tout un pan de la culture des Kinton Crowshoe, membres de la communauté Piikani, une première nation de l'ouest du Canada. Ce lourd passé colonial est désormais un véritable moteur pour la réintroduction des bisons. Entre réconciliation culturelle, écologique et économique pour les descendants des colonisateurs et des peuples autochtones. En Amérique du Nord, le retour vital du bison dans les grandes plaines, c'est un grand reportage de Léopold Picot.
Dans les vastes plaines jaunies de l'Alberta, la petite voiture supporte mal les rafales. Les plateaux des contreforts des montagnes rocheuses se brisent en dizaines de falaises. Dans l'une de ses parois naturelles, un bâtiment de béton, comme un bunker, est en rénovation. Voici Ed's Machine, un centre de découverte de la culture autochtone.
Nice to meet you, Leo.
Yes.
Un homme au regard perçant, patiente devant l'accueil.
Ok, je suis au Kenekwan.
Je m'appelle Quinton Crowshoe, c'est mon nom administratif. Je viens de me présenter dans ma langue traditionnelle, Blackfoot, que nous appelons Nitsitapi. Blackfoot, ça nous a été imposé. C'est ainsi que les colons nous appelaient. En réalité, nous nous appelons Nitsitapi, le vrai peuple de la terre. Je travaille ici, au précipice à Bison, en tant que coordinateur du marketing du lieu et des événements.
Ed's Machine est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est là, du haut de cette falaise, que les ancêtres de Kinton, la première nation des Piikani, chassaient le bison.
Il s'agit d'une ancienne forme de chasse collective. D'après les récits des anciens, la dernière fois que le précipice à bison a été utilisé, c'était au milieu des années 1800. C'est à cette époque que les chevaux et les fusils ont été introduits dans les plaines et qu'une nouvelle méthode a été trouvée. Vous êtes actuellement sous la falaise. Quand vous allez à l'ouest, sur quelques kilomètres, il y a un gigantesque bassin de rassemblement. Les bisons vont être attirés hors de ce bassin de rassemblement dans des couloirs en imitant les mouvements d'un bisonneau en détresse ou d'un loup. Lorsqu'ils atteignent la falaise, dans les 300 derniers mètres, alors qu'ils chargent, le soleil est en train de se lever. Non seulement il crée une illusion d'optique, mais il aide aussi à aveugler les bisons. Ils courent à toute vitesse et tout à coup, ils tombent.
La légende raconte qu'un garçon curieux aurait voulu observer de trop près cette chute de bison. On aurait retrouvé son crâne écrasé après une chasse particulièrement réussie, d'où le nom de ce lieu sacré, Ed's Mash Inn, le centre interprétatif et l'œuvre du grand-père de Kinton, Joe Crowshoe Jr. La pièce où l'on se trouve est même nommée en son honneur.
Cet homme, qui se trouve être mon grand-père, est allé consulter les peuples, les dirigeants, les chefs, le gouvernement, le conseil, et il a reçu leur feu vert. Tout ce temps, il a demandé à beaucoup d'anciens des communautés ce qu'était un précipice à bison. Ils ont construit ce centre d'interprétation qui nous permet de partager nos connaissances et nos histoires avec les enfants, les écoles locales, les écoles de l'extérieur de la province et les visiteurs internationaux.
Le centre reçoit chaque année plus de 80 000 visiteurs. Pour Kinton, perpétuer cet héritage, c'est permettre aux bisons de revenir au centre de la culture du Canada et de reconnaître leur importance pour les Grandes Plaines.
Mon grand-père raconte l'histoire de son arrière-arrière-grand-père qui faisait courir les bisons sur ses falaises. Il raconte qu'à perte de vue, on voyait des vagues noires à travers les plaines. C'était des bisons côte à côte, des milliers de bisons à perte de vue. Et ces bisons piétinent. Lorsque le Créateur a créé les bisons, il a conçu leurs sabots de manière à ce que, lorsqu'ils se déplacent, ils aèrent naturellement le sol. Ils nourrissent le sol une fois qu'ils ont mangé toute l'herbe, puis se déplacent vers leur prochaine zone de pâturage. Ils laissent derrière eux une formidable fertilisation.
Les peuples autochtones des Grandes Plaines connaissent depuis toujours le potentiel écologique du bison, mais il a fallu qu'il manque de disparaître pour que les Blancs réalisent l'importance de leur rôle. Pour comprendre leurs impacts sur les écosystèmes, il faut se rendre dans le nord de l'Alberta.
Hi, you found us. Léopold.
Léopold, pleased to meet you.
Nice to meet you.
Chanté, Joanne.
C'est là, dans un chalet au bord d'une mare au castor, que vit Wes Olson, non loin d'un parc abritant des bisons sauvages. Il s'estime heureux de pouvoir étudier une espèce passée si proche de l'extinction.
La révolution industrielle a entraîné un besoin considérable en cuir, avec les courroies qui entraînaient les machines pour fabriquer les vêtements que les gens portaient. En Europe, on a très vite manqué de peau de bovin pour fabriquer ces courroies. Ils ont donc cherché ailleurs le cuir qui ferait tourner l'industrie. Ils sont venus en Amérique du Nord et ont très vite développé une industrie de la peau où les chasseurs allaient dans les grandes plaines et abattaient des centaines et des centaines de bisons. Il n'a pas fallu longtemps, de 1860 à 1880 environ, pour dépeupler les grandes plaines d'Amérique du Nord, qui sont passées de 30 millions à 23 bisons sauvages, cachés dans une vallée du parc national de Yellowstone.
Le massacre des bisons a bouleversé les écosystèmes des grandes plaines d'Amérique du Nord, car ce sont des espèces clés, ou plus littéralement, clé de voûte, en anglais.
Si l'on retire la clé de voûte de la structure, c'est toute la structure qui s'effondre. Et c'est exactement la même chose dans la nature. Dans un environnement, les bisons sont des espèces clés. Et lorsqu'ils ont été retirés des grandes plaines d'Amérique du Nord ou de tout autre endroit où ils vivaient en Amérique du Nord, ces écosystèmes se sont généralement effondrés. En général, ces écosystèmes se sont effondrés parce qu'on a retiré cet élément clé de l'écosystème. Et si vous remettez cet animal dans le paysage, les composants vont se reconstruire progressivement, renforcer cette arche et la reconstituer.
Le massacre des bisons a permis aux Blancs de s'approprier les terres des autochtones, les Premières Nations. À l'époque, la philosophie de l'armée américaine, c'était un bison tué pour un autochtone en moins dans les plaines. Wes, artisan de la réintroduction du bison, sait que l'animal peut être un outil de réconciliation, il l'a lui-même vécu.
Il y a quelques années, Joanne et moi avons été invités à une danse du soleil de Blackfoot, une cérémonie très spéciale. Nous étions les seuls blancs à assister aux cérémonies, au Bowo des autochtones. C'était une expérience fascinante. Au milieu de ce grand village de tipis, il y avait un tipi beaucoup plus grand. J'ai demandé à notre guide ce qu'il s'y passait et il m'a demandé « Vous aimeriez entrer et vous faire peindre le visage ?» Vous vous penchez pour entrer dans l'ouverture du tipi et c'est un voyage dans le temps. Je suis passé de 2023 à 1823 en 3 secondes. C'était absolument remarquable parce que l'intérieur de ce tipi était rempli d'encens, la fumée de foin d'odeur qui brûlait et tout autour d'un périmètre où se trouvaient des anciens, on m'a amené à un homme assis. Il s'appelait Roger Perry Chicken. Pendant ce temps, il chantait en Blackfoot et il a fait une pause pour me demander comment je m'appelais. J'ai répondu que je m'appelais Wes Olson. Il m'a répondu « Non, non, quel est ton nom de Blackfoot ?»« Oh, mais je n'ai pas de nom en Blackfoot !» Il a pris cet air presque furieux et a commencé à chanter et à prier à nouveau. Puis il s'est arrêté et a dit « Ton nom est Inyu Marika. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Il m'a dit qu'Inyu Marika voulait dire « meneur de bisons ». Il ne connaissait pas mon histoire avec les bisons, mais il a fait ce lien. Ça m'a vraiment rapproché des nations Blackfoot qui vivent dans leur réserve.
Juste à côté de la maison de Wes, dans le parc de l'île aux Élans, il y a des bisons des plaines. Ce sont eux qui permettent la réintroduction de nouvelles populations dans toute l'Amérique du Nord. Comme à Banff, par exemple. Niché dans les rocheuses, à 3 heures de route du précipice à bisons, le parc national de Banff est le plus ancien du Canada. Sa population de bisons a disparu peu avant sa création en 1885. Dylan Watt est membre de l'équipe de réintroduction du bison des plaines.
Aujourd'hui, au moment même où nous réalisons cette interview, il y a un peu plus de 100 bisons dans le parc national de Banff. Nous avons commencé avec 16 animaux en 2017. Le bison des plaines est une espèce indigène à Banff et il a disparu du paysage depuis plus de 150 ans. C'est important de les réintroduire ici car c'est une espèce clé de voûte. Ça veut dire qu'elle a un impact très important sur le reste de l'écosystème. L'écologie de cet endroit a été privée de cette pièce métallique pendant très longtemps, et les conditions nous permettent aujourd'hui de rapporter cette pièce.
Les bisons sont situés dans une zone inaccessible pour le grand public. Ils ont été réintroduits par avion et par hélicoptère. Et en 7 ans, le changement dans l'écosystème est déjà perceptible.
Des zones que notre équipe connaissait très bien avant l'arrivée des bisons ont un aspect très différent aujourd'hui. Lorsque les bisons sont en liberté, la végétation est broutée, piétinée, ce qui favorise sa productivité à long terme. Et vous ne pouvez pas rater leurs bouses, elles sont partout. Et cela joue également un rôle important dans l'écosystème.
important role in the ecosystem too.
Désormais, le bison n'est plus une espèce en danger. Rien qu'au Canada, on compte plus de 12 000 bisons des plaines et des bois en liberté et près de 150 000 bisons d'élevage. Non loin de Calgary, en Alberta, Carlon Big Snake possède deux bisons un peu particuliers, ils sont blancs.
Voilà Tomahawk, c'est le mâle. Et la femelle est de l'autre côté de la barrière. On peut faire l'entrevue à l'intérieur. À l'époque, on voyait beaucoup de bisons blancs dans les troupeaux. D'après les récits, lorsqu'un bison blanc naissait, les gens attendaient qu'il ait environ 2 ou 3 ans et ils tuaient le bison blanc pour le donner au chef principal de la tribu en disant « c'est pour le peuple ». Le bison blanc nous dit qu'il y a beaucoup d'espoir pour les peuples indigènes.
Carlon ne s'en cache pas, à l'origine, il voulait tirer profit de ces bisons blancs, mais lorsque les anciens sont venus rendre visite à Tomahawk, tout a changé.
Ils sont venus ici et nous avons accueilli environ 200 personnes venues de partout. Nous avons organisé une sorte d'exposition et nos aînés en particulier ont été très touchés par cela. Ils étaient très émus. Avant, je me disais, ok, maintenant que nous avons ces bisons blancs, comment je vais faire de l'argent avec ? Les anciens sont venus, ont fait la cérémonie et j'ai fait marche arrière. Je me suis dit que ce n'était pas bien, que je ne pouvais pas les utiliser pour me faire de l'argent. Ils sont ici dans un but précis. Les gens viennent, les gens sont très émus lorsqu'ils le voient et ils font leurs prières. J'ai un lien très fort avec eux.
Des bus entiers débarquent chez Carlon et même Justin Trudeau, le premier ministre canadien, est venu voir ces deux bisons blancs. Pour l'ancien représentant de la nation Siksika, c'est une source d'espoir dans un contexte difficile pour les peuples autochtones.
Beaucoup de communautés autochtones sont en difficulté parce qu'elles sont placées dans des réserves. Lorsque les colons sont arrivés, ils ont fait beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Nous voyons ces grandes entreprises gagner des milliards de dollars et elles se sont emparées illégalement de toutes les terres qui nous entourent. L'un des engagements et l'un des traités prévoyait le partage des ressources, mais ils ne l'ont jamais fait. Alors maintenant, nous allons chez Walmart pour acheter de la viande de bison. Je pense qu'il faut désormais éduquer aussi nos propres peuples. Beaucoup de membres des Premières Nations ne comprennent pas les bisons blancs. Ce n'était pas dans les programmes scolaires au Canada. On ne parlait pas de l'histoire des peuples autochtones. Ils ne voulaient pas. Désormais, les programmes ont changé. On parle de ce qui est arrivé aux Premières Nations. Il n'y a que l'Alberta qui ne l'accepte pas. Ils disent non, nous ne voulons pas en parler. C'est trop horrible d'enseigner cela à nos enfants. Mais nous devons parler de la vérité pour que tout le monde se rende compte.
For everybody to understand. Le bison est donc un allié culturel, social, écologique, mais pas que, il est aussi lucratif. Dans un café de Calgary, ville la plus peuplée de l'Alberta, on a rendez-vous avec Kelly Long. À la tête de l'entreprise No Premium Bison, la femme d'affaires exporte de la viande de bison jusqu'en Europe, un marché tiré par la France et la Suisse.
Notre toute première livraison en Europe date de 2003 et c'était quelque chose d'assez inédit. Nous commençons à le voir devenir beaucoup plus courant aujourd'hui. Par exemple, il figure au menu des Buffalo Grill dans toute la France. Nous avons également des marchés en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Hongrie, en Autriche. Nous sommes présents dans toute l'Europe occidentale. Il y a une forte demande pour ce produit désormais. Les gens commencent à s'y intéresser et à l'essayer. Est-ce aussi populaire que le bœuf, le porc et le poulet ? Non. Est-ce que ça le sera un jour ? Sans doute pas. De toute façon, nous ne pourrions pas satisfaire la demande. Mais ça reste une excellente protéine de substitution au bœuf ou à d'autres produits avec une valeur nutritionnelle élevée et une faible teneur en matière grasse.
Pour Kelly, élever le bison, c'est promouvoir un élevage plus responsable. En moyenne, un producteur canadien détient seulement 150 têtes dans sa harde.
Nous continuons d'augmenter la taille des troupeaux, mais c'est une progression lente parce qu'elle se fait naturellement. Nous ne pratiquons pas d'insémination artificielle et nous ne donnons pas d'hormones de croissance. Tout se fait donc naturellement. La façon dont nous élevons les animaux ajoute de la valeur à la terre, aide l'environnement, aide le sol, aide à séquestrer le carbone, aide le bassin versant, aide la diversité des plantes, la diversité de la vie, comme vous l'auriez appris en parlant à Wes Olsen, qui a dû vous donner plein d'informations.
Pour voir si ces promesses s'appliquent bien à l'élevage, direction un ranch au centre de l'Alberta, entre Edmonton et Calgary.
Léo.
George Briggs est éleveur de bisons depuis une trentaine d'années. Il montre fièrement de grands frigos remplis de différents bouts de viande rouge complètement écarlates.
On a exactement les mêmes morceaux que les autres. On a tout l'assortiment de steaks, du plus haut de gamme au filet, en passant par les côtes, le foie, le cœur, la langue et les rognons. On vend tout ce qui provient de ce bison. On dépèce toutes les semaines, ce qui permet d'avoir de la viande fraîche chaque semaine.
Direction les champs pour voir les bêtes de George. Dans le bison, tout est bon et pour lui, le succès s'en ressent.
Nous avons beaucoup de clients qui se trouvent dans un rayon de 150 miles. Nous avons des gens qui viennent de Lethbridge environ tous les 3 mois pour acheter de la viande spécifique. Nous avons aussi des gens de Calgary qui viennent exprès.
George a une harde qu'il ne touche pas et des veaux qu'il envoie à la boucherie tous les 18 mois. Une centaine d'animaux profitent de son terrain de 250 hectares. Le mâle est gigantesque, sa fourrure est encore épaisse de l'hiver. Son garrot atteint la fenêtre du pick-up de George, pourtant bien américain, et il fait semblant de charger.
À la base des cornes, il y a ces petits anneaux. Si vous regardez bien sa corne et que vous pouvez voir sa base, c'est comme avec les arbres. Chaque anneau est une année de plus. Celui-là, il a bientôt 6 ans.
Come here, buddy. Come on.
George a beau être expérimenté, il traite toujours ses bêtes comme des animaux sauvages. Le rancher préfère rester dans sa voiture lorsqu'il a des visiteurs.
Je continue de parler d'animal sauvage parce qu'ils ne sont pas domestiqués comme une vache. On peut voir qu'ils veulent s'éloigner de nous. Si vous vous trouvez sur leur chemin, ils vont vous écraser. Ce n'est pas comme une vache où on dit « Allez, Marguerite, avance !» Peu importe, ils veulent s'éloigner de nous. Quand on est dans leur espace et qu'ils peuvent s'échapper, ils sont satisfaits. Lorsqu'on leur enlève cet espace et que nous essayons de les faire passer par des systèmes, de les sevrer ou quoi que ce soit d'autre, ils se défendent. On a donc des clôtures plus hautes et plus solides, des systèmes différents. Nous utilisons beaucoup d'hydraulique. On ne peut pas chasser le bison. On ne peut l'emmener que là où il veut aller.
Pour George, élever le bison, c'est aussi un moyen de réparer les erreurs du passé.
Vous avez vu ces photos d'os et de plein d'autres trucs qui étaient empilés à 9, 12, voire 15 mètres de haut le long des voies ferrées, des montagnes d'os. C'était désastreux pour les pauvres animaux, n'est-ce pas? Ils essayaient de forcer les Premières Nations à se déplacer plus loin. Sans ces quelques personnes qui ont capturé ces animaux pour les placer dans des parcs, nous n'aurions probablement plus de bisons aujourd'hui, n'est-ce pas? Je pense que ça nous apprend beaucoup de choses.
Il y a 10 ans, un traité pour les bisons a été signé entre différentes Premières Nations pour encourager leur réintroduction dans les Grandes Plaines avec le soutien d'associations de l'environnement canadiennes et américaines. Les réserves autochtones sont de plus en plus nombreuses à en accueillir, même si la mère de bison décrite par leurs ancêtres risque de ne jamais revenir.
Et l'on retrouve l'un de nos correspondants au Canada, à Calgary précisément, Léopold de Picot, bonjour.
Bonjour Patrick.
Vous rentrez de reportage donc consacré au bison, vous parlez d'ailleurs d'un traité du bison, de quoi s'agit-il concrètement?
En fait, ce traité du bison, c'est un traité entre Premières Nations qui sont basées donc au Canada et aux États-Unis. Le but de ce traité, c'est de recréer des liens écologiques, culturels, spirituels entre le bison et les peuples autochtones. Concrètement, les peuples autochtones, ils s'engagent à protéger, à respecter le bison et à échanger sur leur expérience de réintroduction. Donc, il y a des programmes pour mieux connaître le bison et les histoires qui lui sont liées. En fait, ce traité est en partenariat avec de nombreuses associations environnementales et des universités des deux pays, donc États-Unis et Canada.
Et vous dites aussi qu'une mère de bison en Amérique du Nord risque de ne jamais revenir. Mais pourquoi est-ce que les bisons ne pourraient pas une nouvelle fois parcourir les grandes plaines comme ils l'ont fait il y a deux siècles ?
Cette mère de bison dont parle Kinton, donc, qui est de la nation Picani, c'est pas du tout une image. Hein. Il y avait vraiment 30 millions de bisons dans les grandes plaines d'Amérique du Nord, donc c'est énorme. Bah nécessairement, aujourd'hui, ces grandes plaines, elles appartiennent à des particuliers. Elles ont été, pour une partie, urbanisées, bétonnées. Il y a des clôtures qui ont été construites, des murs, des haies. Elles sont aussi cultivées. Donc clairement, vu la puissance qui est transformatrice des bisons, les dégâts qu'ils peuvent faire, on se doute qu'un cultivateur de maïs ou de céréales ne serait pas trop ravi de voir une harde de bisons passer dans son champ.
Ça, c'est pour les bisons sauvages, hein, si je puis dire. L'autre pan, c'est bien sûr l'élevage de ces bisons, qui paraît a priori plus écologique qu'un élevage de bœuf. C'est une impression, Léopold, ou une réalité ?
Je dirais qu'en règle générale, élever une espèce endémique plutôt qu'une espèce importée, c'est toujours mieux pour l'environnement. Ça permet de favoriser les espèces locales qui dépendent du bison, par exemple. C'est ce que nous disait Wes Olson. Ça favorise les oiseaux, les fourmis, certains insectes rares. Après, l'enjeu, comme toujours, c'est de ne pas tomber dans l'élevage intensif. Sur place, les champs de Georges, là, le rancher qu'on entendait dans le grand reportage, ils étaient vraiment en bonne santé. Ils étaient fertilisés, ils retiennent beaucoup de gaz à effet de serre. Le problème, c'est que si les troupeaux de bisons deviennent plus importants, bah, ça va multiplier les besoins d'importation en céréales, alors qu'on en a cruellement besoin pour nourrir la population humaine. Ensuite, un intérêt du bison, c'est sa viande, ouais.
Et puisque vous parlez alimentation, Léopold, l'une des finalités de l'élevage de bisons, c'est bien la consommation de sa viande.
Oui, oui, absolument. Alors après, dans le bison, on utilise tout. Hein. On peut utiliser aussi son cuir, ses os qui sont récupérés pour faire même de la nourriture pour animaux. Donc, ce qui est intéressant avec le bison, c'est que tout est utilisé. Tout est bon dans le bison, je l'ai dit dans le reportage, c'est vraiment pour une raison. Et sa viande, elle contient 4 fois moins de gras que celle du bœuf. Elle a moins de calories, plus de fer. Donc en fait, niveau nutritif et écologique au final, parce qu'en mangeant un steak de bison, c'est l'équivalent d'un peu plus de steak de bœuf. Donc ça permet aussi de réduire les quantités consommées au final.
Léopold, une dernière question. Cette réintroduction et cette croissance de la population de bisons au Canada, est-ce que c'est bien accepté ?
Oui, bah là, vous parlez d'un problème majeur, c'est que le Canada et les États-Unis, c'est vaste, mais la réintroduction soulève beaucoup de questions. D'abord, celle de son statut. Dans la province de l'Alberta, là où j'ai enregistré mon reportage, le bison, il n'est pas considéré comme une espèce sauvage, comme dans les provinces voisines de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan. En Alberta, le bison, il est considéré comme du bétail, sauf dans certaines zones spécifiques comme le parc de Banff. Donc c'est une aberration parce que pour les associations, le bison, c'est une espèce nomade qui doit pouvoir être protégée partout où il se rend. Mais en même temps, la question, c'est comment on définit un statut précis de protection sans mettre en difficulté les éleveurs de bisons. Donc certains suggèrent de considérer le bison des plaines plus rare comme une espèce sauvage, des forêts comme du bétail, sauf qu'au final les deux espèces se mélangent, donc il y a des individus bâtards qui seraient hors de toute législation. Et nécessairement, ça touche aussi par Canada. Dylan Watt, qui a réintroduit des bisons au parc de Banff, il a multiplié des barrières naturelles pour essayer d'éviter que les bisons sortent du parc. Le problème, c'est que lui-même l'admet, à un moment, les bisons ils vont sortir du parc. Et là, il va falloir trouver un moyen qu'ils puissent circuler sur les plaines sans être chassés ou tués.
Merci, Léopold de Picot, pour ce grand reportage sur le bison au Canada.
Merci, Patrick.
Le supplément au grand reportage se referme. Merci d'avoir été avec nous. À la réalisation, Ludivine Amado et Eva Piedel. Demain, 19h40, temps universel, RFI inaugure une série jusqu'aux élections européennes. 2 fois par semaine, grand reportage parcourt l'Europe pour entendre et comprendre cette montée des populismes et de l'extrême droite.